RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à Bruxelles. Il y a un an, jour pour jour, plusieurs explosions terroristes touchaient la capitale belge. Bilan de ces attentats suicides, 32 morts et plus de 300 blessés. Bruxelles est une ville traumatisée, ses habitants sont marqués, son économie, son tourisme sont touchés. C'est toute la capitale qui a dû s'adapter à de nouvelles mesures de sécurité, à la suspicion aussi qui règne désormais au sein de la population. Les kamikazes étaient belges. Alors comment Bruxelles a-t-elle changé? Bruxelles, ville debout un an après, c'est un grand reportage signé Laxmi Lotha.
Elle faisait de la tête, j'ai pris les suives, j'ai juste serré et j'ai laissé sur le banc et je suis partie rejoindre le groupe.
Tout le monde a couru vers la sortie, vers la route. On était en pleine heure de pointe.
On nous a dit par l'eau-parleur qu'on devait sortir, évacuation.
Tout le monde courait, c'était la folie, il y a des gens qui se bousculaient, qui tombaient.
Il y avait des gens qui gisaient par terre, ils étaient tous ensemble.
Ce 22 mars 2016, à 7h58, deux explosions retentissent dans le hall des départs de l'aéroport Zaventem. À 9h11, un kamikaze se fait exploser dans la station de métro Malbec, à quelques mètres des institutions européennes. Bruxelles compte ses morts, ses blessés. Un an après, le choc est passé, mais le traumatisme demeure. Yves Vautier-Freyman est psychothérapeute, spécialiste du stress post-traumatique.
Oui, je pense qu'il y a des villes ou des endroits où on ressent le trauma, il y a une présence de fond ou une histoire qui fait que c'est plus lourd.
Chaque habitant a pu développer ce stress en étant témoin direct, il était sur les lieux au moment des faits. Indirect, c'est un proche qui a été touché, un collègue, tous ont regardé, écouté, lu les médias. Vivre dans la ville a changé, le psychothérapeute constate plusieurs symptômes.
Il y a des gens qui vont éviter certains types de transports, par exemple des transports en commun. Il y a des gens qui vont rester dans leur quartier parce que cela, ils les maîtrisent. Ils vont développer plus de stress, de nervosité constante. Certaines personnes vont effacer aussi des souvenirs, donc ils vont oublier. Donc ils vont être dans le déni de ce qui s'est produit. Ils vont peut-être se lancer dans une vie un peu exubérante. Il faut profiter de la vie du moment présent sans se rendre compte que c'est un effet secondaire de ce qu'ils ont vécu.
Nous sommes dans l'une des rues commerçantes les plus fréquentées de Bruxelles, la rue Neuve. Totalement désertée après les attentats, aujourd'hui, elle est à nouveau bondée. La foule se frôle le samedi après-midi. Barry flâne avec sa mère.
On n'a pas peur ni de quoi que ce soit.
Malgré ce qui s'est passé,
on vit toujours normalement, on fait des magasins, on sort. Le soir aussi, on sort.
Vous y pensez quand même?
Ah non, moi, vraiment pas du tout. Non, surtout pas. Faut pas leur montrer qu'on a peur. On sait jamais que... Si on vit dans la peur, on est fini. Après, on reste chez nous à la maison, on reste bloqué. On sait plus ce qu'on doit faire.
Les deux copines, Rose et Fatou, défient la peur des adultes.
Deux fois, tu viens, tu dis pas à tes parents, t'as peur qu'il t'arrive un truc.
Ah, vous le dites pas à vos parents?
Bah, deux fois, non.
Qui vous laisseraient pas venir?
Non. Il y a des parents qui veulent pas. Genre, je dis à ma mère, ouais, je viens à Bruxelles, jamais elle voudra... Quand je vois des militaires partout, je me dis on est un peu en sécurité. Puis à Namur, c'est trop calme. Bruxelles, j'aime bien. Puis il y a beaucoup de gens et vous êtes plus en société. Quoi.
Vous allez continuer à venir.
Ouais, c'est ça.
On doit continuer à vivre. Hein. On ne va pas rester stressé toute notre vie parce qu'il y a tout le temps des attentats. Non.
À l'entrée du centre commercial City 2, un vigile fouille les sacs des clients. Les lieux ont fait l'objet de plusieurs alertes à la bombe ces derniers mois, mobilisant les forces de police. Un étudiant iranien a cru bon laisser dépasser des fils électriques de son manteau. On apprendra plus tard qu'il étudiait les radiations dans la capitale. Un homme s'est présenté avec une ceinture censée contenir des explosifs. Il l'avait remplie de biscuits écrasés. Plus récemment, c'est une bagarre qui a créé un véritable mouvement de panique dans le centre commercial. Une vendeuse qui souhaite garder l'anonymat a été témoin de plusieurs scènes de ce genre.
Dès qu'on entend un peu de bruit ou quelque chose comme ça, les gens paniquent. Oui, donc c'est ça, il y a eu une bagarre apparemment, et ils ont commencé à bouger les chaises et ce genre de choses. Et les clients ont cru qu'il y avait des coups de fusil, ont crié qu'il y a eu des coups de fusil, ce qui fait qu'il y a eu une panique générale et que tout le monde a commencé à courir, à crier à la fusillade, mais c'était un mouvement de chaise.
C'est aussi un jeune homme donc pour un vol.
Oui, c'est ça. Donc apparemment, un jeune homme qui a causé un vol dans le City 2, qui a commencé à courir et qui donc a crié, je ne vais pas vous dire quoi précisément, mais qu'il avait une bombe ou quelque chose comme ça sur lui. Et donc tout le monde a commencé à paniquer et il y a eu des répercussions après, des personnes qui sont tombées dans les escalators et tout, mais jamais rien eu grand chose.
La ville n'est plus la même.
La difficulté pour moi, c'était que théoriquement, je savais que Bruxelles pouvait être une cible. Autre chose, c'est évidemment de le vivre réellement.
Yvan Mayer est le bourgmestre de la capitale. Il ne peut plus gérer Bruxelles comme avant.
On recommande aux gens de ne pas venir avec des sacs à dos. On demande que chacun participe à la vigilance nécessaire autour de soi.
Il y a des événements que vous avez dû annuler.
Oui, oui. J'ai dû annuler le feu d'artifice du Nouvel An il y a 2 ans. Et j'ai dû annuler une manifestation contre la peur.
Est-ce que ce sont des choix difficiles à faire ?
Ah oui, et en même temps, il est plus facile d'annuler quelque chose que de l'autoriser. L'autoriser, c'est prendre un risque. Ben, nous sommes une des villes dans laquelle il y a le plus de manifestations. Donc il faut protéger ces événements, ces manifestations. Tout ça fait désormais l'objet d'analyses détaillées, analyses de risque avec la police, avec les services de prévention. Donc ces événements ne sont plus organisés comme avant. Tout cela implique des prises de responsabilité énorme pour les autorités publiques. Voilà, et c'est très très difficile.
Bruxelles est toujours en alerte de niveau 3 sur 4, c'est-à-dire que la menace terroriste est probable, mais non imminente. L'appétit de vivre des Bruxellois semble plus fort que la peur. Le marché de Noël a connu un record d'affluence en décembre dernier, 2,5 millions de visiteurs contre 1 million en 2015. Les consommateurs ont fait les soldes, les manifestations contre la loi travail, des militaires contre le CETA, le traité commercial Canada-Union européenne ont bien eu lieu, rassemblant des dizaines de milliers de personnes. Fait rare, parmi ces manifestants, des militaires. C'était en novembre dernier. C'est le changement le plus visible dans la ville. Ces hommes, en tenue de camouflage, armes à la main, sont désormais partout, à 2, 3 ou 4, postés dans des lieux stratégiques. La gare centrale, le centre-ville, la Grand Place, la Commission européenne et certaines stations de métro comme De Broeker. Le gouvernement fédéral a mobilisé plus de 3500 militaires dans le pays pour cette surveillance de rue. Une mission qui n'est pas adaptée aux combattants pour Pascal Poupard, délégué permanent à la CGSP Défense.
Les militaires commencent un petit peu à en attraper un peu marre d'être en rue. Parce que pour eux, c'est une perte de temps, étant donné qu'ils ne savent plus aller s'entraîner pour leurs vraies fonctions. Et en plus, le problème, c'est qu'il n'y a encore aucune loi légale de leurs fonctions. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire des contrôles, des fouilles et tout ça. Il y a malheureusement, certains militaires l'ont fait, des citoyens ont porté plainte justement pour ça.
Alors, leur rôle, c'est quoi dans la légalité ? Ils sont là pour quoi ?
Se montrer et remplacer le manque de policiers à bas prix. Normalement, officiellement, ils ne peuvent pas intervenir s'il n'y a pas la police avec eux.
L'autre problème, c'est le manque d'effectifs, explique le délégué syndical.
Et il n'y a pas assez de personnel, puisqu'ils doivent toujours fournir 3600 militaires en stand-by ici en Belgique. Et la plupart, en principe, ce sont des gens de combat. Et maintenant, on est même obligé à prendre des styles cuisiniers ou des logisticiens, justement, pour faire cette mission aussi.
Des cuisiniers pour effectuer cette surveillance antiterroriste, Pascal Poupard regrette la durée de cette nouvelle mission.
Les gens étaient contents de voir les militaires, hein, ça, c'était sécurisant. Mais maintenant, c'est comme s'ils font partie des meubles. On les remarque quasiment plus. Hein.
Les habitants se sentent pourtant globalement rassurés par cette présence militaire.
Jesus, oh, somebody, please, God, Savior.
À la station de métro Malbec, les voyageurs passent devant le tableau signé par des dizaines d'anonymes au lendemain des attentats. Un immense cœur rouge, en son centre, attire le regard. Durant de nombreux jours après l'attaque suicide, on a pu observer le silence des passagers, leurs yeux baissés lorsque la rame de métro passait par la station, cachée par d'immenses bâches noires. Aujourd'hui, les conversations ont repris et les voyageurs pensent au risque quand ils utilisent les transports en commun.
À chaque fois que je sors ici à la métro de Malbec, je vois le tableau là où il y a toutes les signatures et ça me rappelle tout le temps que voilà, il y a eu des morts ici. Et c'est vraiment touchant parce qu'on pensait être sécurisé ici en Bruxelles, mais on n'est pas.
Quand il y a beaucoup de gens, je me pose toujours la question, quoi. Mais en soi, je continue à les prendre parce que j'ai pas le choix. Donc, dès que je peux venir à pied, je viens à pied. Je prends le temps. Et puis c'est vraiment quand je suis que j'ai pas le temps, là, je prends le métro.
Je me sens pas en danger. Je suis OK. Et il se passe beaucoup de choses à Bruxelles. Je trouve qu'il faut pas du tout penser que Bruxelles est perdue. C'est vraiment le contraire. Bruxelles est vivante. Ça marche bien.
Bruxelles a vu sa grande place désertée. Les vendeurs de chocolat, de gaufres et de dentelles ont patienté dans les galeries royales. Il a fallu des campagnes publicitaires et beaucoup d'humour avec des chats et des choux de Bruxelles pour faire revenir les touristes soucieux de leur sécurité. Seule la clientèle asiatique et américaine manque à l'appel aujourd'hui. Cette baisse est toutefois compensée par un tourisme de proximité. Les pays voisins sont solidaires. Pour Patrick Bontink, directeur général de l'office de tourisme Visit Brussels, une nouvelle image de marque est même née.
Il y a eu un sentiment d'appartenance à Bruxelles. Et ce sentiment de fierté d'appartenir à cette communauté très internationale, très mondiale, était peut-être moins présente avant. Et c'est le côté peut-être positif de cette crise, c'est qu'on a ce sentiment de fierté d'être bruxellois, ce sentiment d'appartenir à un modèle qui est différent, parce que c'est vrai, c'est pas partout qu'on a la chance de pouvoir élever nos enfants dans des écoles où il y a des gens de 30, 40 nationalités différentes et qui vivent ensemble et que ça réussit. Et je pense que cette fierté-là, on l'avait pas avant et aujourd'hui on l'a.
Evelyne et Chantal, deux amies parisiennes, la cinquantaine, n'ont pas hésité à venir visiter la Belgique.
On a remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de gens de l'armée, hein, de messieurs de l'armée là, qui surveillent, qui regardent bien tout ce qui se passe. Et c'est vrai que moi personnellement, je trouve que c'est très sécurisant.
Oui, on est beaucoup. Enfin, moi personnellement, je suis beaucoup plus vigilante au regard des gens, ce qu'il peut y avoir autour de nous par terre, les sacs, un paquet. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans.
Donc on n'a pas peur, mais on vit avec. Et c'est malheureux quelque part. Et c'est triste parce que dans tous les pays du monde, on est nulle part tranquille. Hein.
Nous, sur Paris, on vit tout à fait normalement. Hein. On continue. Hein. On voyage pas mal. On prend le train, on prend le métro, on va prendre l'avion bientôt. Bon, ben voilà, il faut continuer à vivre.
Dans la capitale, la vigilance est de mise. Les habitants vivent au rythme des suspicions et alertes. Ces dernières semaines, la salle de concert ancienne Belgique et des restaurants alentours ont été évacués juste avant un spectacle pour cause d'alerte à la bombe. De la poudre retrouvée dans un sac et c'est 200 personnes qui se retrouvent confinées pour une alerte à l'anthrax. Des jeunes font exploser des pétards dans le métro à la station Rodebeek et créent la panique. Les mesures de sécurité ont été renforcées avec des obstacles placés à l'entrée des rues piétonnes pour éviter le passage en force de véhicules. Mais devant l'aéroport, les contrôles ne sont plus systématiques. Les voyageurs ne doivent plus faire scanner leurs valises avant d'entrer. Pour s'adapter à ce contexte, ce risque probable, les autorités ont dû modifier la loi. Jean-Pierre Martin et Christophe Lamfalussi sont journalistes, auteurs du livre « Molenbeek sur djihad ». Dans leur ouvrage, ils décrivent les failles et les changements intervenus dans la législation en Belgique depuis les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Christophe Lamfalussi.
Par exemple, une des décisions prises par le gouvernement, ça a été de permettre les perquisitions de nuit qui n'étaient pas autorisées pendant la nuit pour les affaires de terrorisme. Donc ce sont quand même des choses qu'on aurait pu décider déjà il y a 10 ans.
Montrée du doigt par ses voisins, dont la France, la Belgique a entrepris de faire le ménage chez elle, pour reprendre l'expression du ministre de l'Intérieur, Yann Yambon. Depuis un an, une centaine de lieux, mosquées, cafés, associations liées à l'islamisme ont été fermés à Molenbeek. Les deux auteurs reviennent longuement sur les origines du radicalisme dans le pays, un péché d'ignorance selon eux. En 1967, le roi Baudouin offre pour 99 ans le pavillon oriental du parc du Cinquantenaire à l'Arabie Saoudite qui en fera la future grande mosquée. Jean-Pierre Martin et Christophe Lamfalussi.
Eh bien, nous avons donné la clé des âmes à l'Arabie Saoudite. En Belgique, on ne s'est pas du tout préoccupé, d'ailleurs, au milieu des années 60, de la culture, des traditions religieuses de ces immigrés que l'on amenait pour participer au développement de la Belgique, comme d'autres pays européens dans les années 60. Il y avait une très grande méconnaissance en Belgique de l'islam. Contrairement à la France, par exemple, ou à la Grande-Bretagne, nous n'avions pas d'anciennes colonies de mandat sur des pays musulmans.
Et donc, c'est plus par ignorance, par légèreté peut-être, qu'on laisse en fait la Belgique être infiltrée progressivement, non seulement par une religion wahhabite, très éloignée des valeurs européennes, mais aussi les frères musulmans qui viennent de la Syrie, les tabliques pakistanais qui viennent aussi, et donc toute une série de mouvements qui vont radicaliser l'islam en Belgique.
Ce clivage dans la société, Myriam Amrani l'a décelé il y a 16 ans déjà, juste après les attentats du 11 septembre à New York. Elle est responsable de l'association d'Akira, qui propose des formations et organise des conférences autour de la notion de vivre ensemble, chère à la Belgique. Myriam Amrani.
L'image du Titanic, c'est un peu cette idée qu'on était un peu comme dans ce paquebot, ce beau paquebot gigantesque, etc. Nos sociétés se percevaient comme intouchables, comme inébranlables. Et puis finalement, ces attentats sont venus toucher à la sécurité des personnes, mais aussi à toutes les perceptions ou les représentations qu'on se faisait de nous-mêmes, de nos sociétés. Et donc quand nous voyons l'iceberg se profiler, on a lancé des signaux d'alarme, on a attiré l'attention de responsables politiques, de responsables dans l'administration, en disant voilà, il faut nous donner des moyens d'agir pour déconstruire des discours de plus en plus durs, sexistes, réactionnaires, xénophobes sur le terrain, et on était peu entendus.
Face aux interrogations, aux crispations entre communautés, à la suspicion et l'incompréhension, Myriam Amrani prône la pédagogie contre l'idéologie.
C'est comme tous les traumas, il y a le temps de la cicatrisation, et puis il faut vraiment parler, vider, créer des lieux, donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, et avoir vraiment des médiateurs, au sens premier du terme, ceux qui vont pouvoir faire que cette parole puisse déboucher sur quelque chose qui va donner envie d'avancer, de dépasser le moment de tension, le moment de crise, et de pouvoir simplement avancer ensemble dans la même direction.
En un an, Bruxelles a ouvert les yeux sur ses failles. Les autorités savent qu'elles vont devoir faire face ces prochains mois au retour des combattants belges partis en Syrie. La menace est toujours présente. Mais Yves Vautier-Freyman, le psychothérapeute, invite à dédramatiser.
Il a moins de chances de se faire exploser par un attentat. En termes de statistiques de morts, c'est une des statistiques les moins courantes qui existent. Donc avoir peur et être coincé dans cette peur d'un attentat, c'est une aberration en réalité. Et donc c'est vrai que par exemple, les médias, c'est important. Parce que au plus on entretient évidemment cette peur, au plus elle devient surréaliste, elle devient hors norme par rapport à la réalité. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est bon aussi de rappeler que c'est un des cas de mort les plus rares quand même sur Terre. C'est pas courant.
Bruxelles, ville debout, un an après les attentats du 22 mars. Un grand reportage de Lax Milota. Réalisation Lorenzo Lacchesi-Danet.
Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu, je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive, Paris, je te laisse.
Accent d'Europe.